Je vais vous demander de vous tourner à un passage dans Deux Rois. Deux Rois 4, verset 38. Prions d'abord. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole qui nous révèle ton grand amour, ton sacrifice à la croix pour nous sauver. Ta victoire sur la mort, Seigneur. Merci de ce que tu es ressuscité, que tu es tout-puissant, que tu nous aimes, Seigneur. Je te remercie pour ta parole qui est la vérité sur laquelle nous pouvons bâtir nos vies, Seigneur, et surtout trouver en qui nous explique comment trouver le salut en toi, Seigneur. Merci parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'effet pour lequel tu l'as envoyée. Nous dit le prophète Ésaïe. Seigneur, nous avons cette assurance que là où nous lisons, là où nous étudions, là où nous mémorisons, là où nous étudions ta parole, Seigneur, elle est toute puissante pour agir, pour nous transformer, pour nous sauver, mais aussi pour nous rendre à l'image de ton Fils, mis à part pour toi, saint Seigneur. On te remercie et on te demande d'accomplir ces promesses que tu as mises dans ta parole, Seigneur, sur son effet et sur sa puissance dans nos vies. Amen. Deux Rois 4, 38. Élisée revint à Gilgal. Or, il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son jeune serviteur, « Prépare la grande marmite et fait cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans la campagne pour ramasser des légumes. Il trouva une vigne sauvage et il y ramassa des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite du potage, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans la marmite !» Homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine, il en jeta dans la marmite et dit « Serre ces gens et qu'ils mangent. » Il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Une histoire peut-être pas très connue de l'Ancien Testament du prophète Élisée, mais qui est une belle illustration de ce dont nous allons parler aujourd'hui dans 1 Timothée 4. Alors, l'illustration, c'est la parole de Dieu, qui nous guérit des mensonges que certains enseignent. Il suffit de pas grand-chose pour contaminer un bon repas, mais il suffit d'un petit peu pour gaspiller, pour pourrir tout le repas. Et on va voir que c'était une préoccupation de l'apôtre Paul qui revient dans toutes ses lettres. Aujourd'hui, au nom de l'unité des chrétiens, au nom du fait que les chrétiens sont si peu nombreux qu'il faut pas se diviser sur la doctrine, on est prêt à avaler toutes les coloquintes sauvages que les gens nous enseignent. 1 Timothée 4, lisons ensemble. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Il est question ici des gens qui se sont approchés de Dieu, de la parole, et puis qui s'éloignent, qui font ce qu'on appelle ou qui tombent victimes de l'apostasie. C'est un mot religieux, c'est un mot qu'on entend dans les séminaires, mais c'est simplement traduit ici par l'abandon de la foi. Et je suis persuadé que vous connaissez tous des amis, des parents, qui à un moment donné se sont dit chrétiens, et puis qui se sont éloignés de Dieu, peut-être sous l'effet de faux enseignements, de mauvais enseignements. Encore une fois, Paul n'a pas honte d'insister sur le fait qu'il faut surveiller ce qu'on vous sert comme repas. Il était heureux des Béréens dans le livre des Actes parce qu'ils s'attachaient, ces gens de cette ville de Bérée, à voir si ce que l'apôtre leur avait enseigné était conforme à la parole de Dieu. Cette apostasie, cet abandon de la foi, c'est quelque chose qui est prophétisé, qui est annoncé, qui est quelque part inévitable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en prémunir ou se garder. Et Paul nous propose, nous donne le problème et nous propose et nous donne la solution. Au verset 5. L'Esprit dit expressément, c'est prévisible, c'est assuré, ne nous étonnons pas lorsque ça arrive que quelques-uns abandonnent la foi, c'est prévu. Il nous donne aussi la chronologie, ça va se passer ça dans les derniers temps. Alors, il y a souvent une mauvaise conception sur l'idée des derniers temps. Est-ce que c'est à partir de l'an 2100? Est-ce que c'était à partir de l'an 2000? En fait, les derniers temps, c'est la grande période qui sépare la première venue de Jésus de sa deuxième venue, de son retour prévu à la fin des temps. Les derniers temps, il en est question dans le livre « La lettre aux Hébreux ». Après avoir autrefois, au tout début de la lettre, de l'épître aux Hébreux, après autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Les derniers temps, c'est une grande période et dès la création de l'Église, il y a eu des fausses doctrines qui ont circulé. Cette apostasie, cet abandon de la foi, elle a des origines surnaturelles. Ils abandonneront la foi, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des esprits séducteurs sont des esprits démoniaques. Encore une fois, c'est quelque part, pour certains, c'est difficile à notre époque de penser qu'il y a des mauvais esprits. On pense que ça, ce sont des choses qui viennent d'une culture arriérée, que ça peut se passer dans certaines zones reculées du monde où les sauvages n'ont pas encore eu accès à la science, à la connaissance, à Internet et à Wikipédia. Mais penser qu'il y a des esprits, c'est quelque chose qui est difficile pour certains dans notre monde entre guillemets, moderne et rationnelle et scientifique. Et pourtant, il suffit de voir ce qui se passe dans le monde pour voir qu'il y a des influences mauvaises, maléfiques. Et donc, ces esprits séducteurs, la Bible en parle comme d'une réalité qui n'est pas à contester. Il y a un ange de lumière créé par Dieu qui s'est rebellé contre lui, qui a voulu se faire aussi grand que lui, qui s'appelle Satan. Et cet ange de lumière qui a été vaincu à la croix, il fait un combat d'arrière-garde. Il est suivi par tous les anges qui sont allés à sa suite et qui maintenant s'attachent à détourner de la vérité, à détourner du salut les hommes et les femmes que nous sommes. Ces esprits, il est dit qu'ils sont séducteurs, c'est-à-dire qu'ils veulent nous tromper, et en plus, ils rôdent partout. Il est dit dans 1 Pierre que le diable est comme un lion qui rôde autour de nous, cherchant qui il peut dévorer. Et il est question aussi de ces gens qui abandonnent la vraie foi. Le mot de foi, c'est un mot qui revient souvent dans le Nouveau Testament comme désignant l'ensemble des croyances qui sont révélées dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Dans Jude, au verset 3, il est question de la foi qui a été révélée une fois pour toutes, qui a été transmise aux saints, c'est-à-dire aux croyants, une fois pour toutes. Jude nous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il ajoute « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Cette foi, elle va être abandonnée parce qu'il y a des hommes qui sont des faux discoureurs. C'est-à-dire ce sont des menteurs. Ce sont des enseignants qui n'enseignent pas la vérité. Et ils enseignent des doctrines de démons. Alors, ce n'est pas des doctrines au sujet des démons. Ce sont des doctrines qui sont inspirées par les démons. Alors je reconnais que quelque part devenir un peu paranoïaque et se dire mais il y a des mensonges qui courent autour de nous même dans l'Église chrétienne. Il y a des esprits qui veulent nous tromper. Ils trouvent ces esprits des vecteurs humains, des hommes, prêts à colporter ces mensonges, à faire ces faux discours. Et c'est tellement énorme qu'on... Paul se dit, mais comment est-ce possible? Et nous aussi, nous pouvons dire, comment est-il possible que des hommes qui se réclament de la parole de Dieu puissent enseigner des mensonges? Il explique au verset 2 que cette hypocrisie, ce mensonge, c'est comme l'hypocrite, c'était quelqu'un qui portait un masque dans le théâtre grec pour qu'on voit de loin, comme il n'y avait pas de système de son, il pouvait y avoir des gens et une acoustique qui permettait d'entendre un peu de loin, mais on mettait sur le visage des acteurs des masques. Il y avait le masque de la tristesse, mais c'était très grand et on voyait bien les lèvres qui retombaient, le regard abattu, ou alors des images de joie avec un grand sourire, des yeux qui étaient tournés vers le haut, des commissions d'élèves tournées vers le haut, et ça, ça exprimait le sentiment qui était traduit par le port de ce masque, indépendamment des sentiments intérieurs de la personne. Un peu comme aujourd'hui, il peut y avoir des clowns qui sont très tristes à l'intérieur, mais ils ont le maquillage. Bonjour les enfants, comment ça va? Et à l'intérieur, ils peuvent être dans une très grande détresse, dans une dépression profonde, mais c'est un masque. Et de la même façon, ces enseignants, ces faux enseignants, ils montrent un masque. Mais ils sont capables d'enseigner des choses qui sont contraires à la vérité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Marqués au fer rouge. La marque au fer rouge, c'était une façon dont les, et aujourd'hui encore, dans les élevages, on peut marquer des animaux avec un fer rouge. Ça nous ramène souvent dans l'imaginaire collectif au Far West, où on marquait les chevaux avec le nom du propriétaire du ranch. Et c'était un signe que l'animal appartenait au propriétaire. Ça peut être une façon de voir que ces faux enseignants, ces faux discoureurs, ils sont marqués au fer rouge par Satan à qui ils appartiennent vraiment. Mais aussi, une des conséquences de cette brûlure au fer rouge, c'est que ça cautérisait une partie de la peau. Quand il y avait, ça c'était un des premiers remèdes de l'Antiquité, lorsque quelqu'un avait une blessure grave, où on ne savait pas faire de la chirurgie avancée. Donc on prenait une lame, on la mettait sur le fer rouge, on la rapprochait de la blessure. Et on brûlait la blessure. On cautérisait la plaie, ça fermait les vaisseaux sanguins. Ça, c'était une conséquence bénéfique. L'hémorragie était interrompue. Et puis, après cette grande douleur qui nous fait encore mal à rien que d'y penser, il y avait une insensibilité de cette partie du corps à tout agent extérieur. Et là, Paul dit que c'est ces gens qui sont capables d'enseigner des mensonges qui font que certains abandonnent la foi, la vraie foi, c'est parce qu'ils sont insensibles dans leur propre conscience. Ils ne peuvent plus rien sentir avec leur conscience. C'est un des problèmes des maladies comme la lèpre. La lèpre affecte les terminaisons nerveuses des membres. Et par exemple, les pieds de la personne atteinte de la lèpre vont perdre leur sensibilité, et donc la personne ne va plus être capable de savoir où elle marche. Elle va marcher sur des cailloux, même des morceaux de verre, sans rien ressentir. Ça va infecter la plaie, et petit à petit, la personne va perdre son membre. Et de la même façon, lorsque on se laisse marquer au fer rouge dans notre conscience, on devient insensible au mal et au bien. Et c'est ce qui explique que certains hommes peuvent arriver à des choses terribles. On est bombardé dans les médias aujourd'hui par des choses terribles qui arrivent. Il y a quelques jours, ou il y a deux jours, on nous apprend qu'un jeune adolescent de 13 ans a été tué, qu'on a retrouvé un morceau de son fémur dans la rivière. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce que c'est les gens, dans leur propre conscience, se laissent aller toujours un peu plus loin vers le mal, se laissent entraîner, font taire leur conscience. Et c'est un danger qui guette chaque chrétien. Et je crois qu'un des dangers, c'est de dire quelque chose et de faire autre chose. Quand il y a cette discordance, les psychologues parlent de dissonance cognitive, on arrive à ne plus savoir faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et on peut arriver à avoir une conscience qui trouve que bof, tout le monde le fait. Et ce qui est inquiétant, c'est que je crois qu'on a tous, quelque part au fond de nos cœurs, cette potentialité, cette possibilité de faire ça. Je repense plutôt, quand j'étais enfant, je devais être au cours préparatoire. Je l'ai déjà confessé, c'est quelque chose qui me marque parce que je pensais faire bien. Mais on avait un professeur ou un maître d'école, qui punissait les élèves en leur demandant de venir auprès de son bureau, de mettre leurs doigts comme ça, et il se saisissait d'une règle en bois et il donnait quelques coups sur les doigts de l'élève pris en faute. C'était cruel. Mais je me souviens qu'il lui arrivait des fois de demander si quelqu'un pouvait lui prêter une règle. Et je dois confesser que j'ai dit « Moi, monsieur, j'ai une règle !» J'étais plus intéressé d'avoir l'approbation du maître que de penser à la douleur que j'allais permettre à mon copain, qu'il était peut-être plus tellement après les coups. Alors peut-être que vous êtes différent et que vous ne vous laisserez jamais influencer au point de, pour un intérêt, pour une reconnaissance, au point de faire du mal aux autres. Mais on pense à des choses qui se sont passées dans nos sociétés développées, civilisées au XXe siècle. Comment des gens sont capables de fermer les yeux sur des choses horribles qui se passent parce qu'on ne veut pas faire de remous, on ne veut pas faire s'opposer au mal. Je ne sais plus qui disait, il est possible... Pour que le mal triomphe, il suffit que les gens de bien ne disent rien. L'avortement est légalisé. Bientôt, le mariage homosexuel. Bientôt, l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Il suffit que les gens de bien ne disent rien et se disent « Oh, c'est pas grave. » Mais lorsque l'on accepte ces choses comme étant des choses normales, notre conscience est cautérisée. Notre conscience devient insensible au mal et au bien, ou à la distinction entre les deux. Et donc Paul se dit que pour enseigner ces mensonges, ces doctrines qui sont inspirées des démons, c'est parce que ces enseignants, ces faux discoureurs ont été rendus insensibles. On continue et on se dit des doctrines de démons, des doctrines inspirées par les démons. Et puis, quelque part, verset 3, c'est un peu comme un anticlimactique, c'est un peu surprenant de voir que les doctrines de démons, c'est l'exemple qu'il prend du moins, c'est de ne pas se marier et de s'abstenir de certains aliments. on aurait pu penser que suivant ce passage que nous avons vu la semaine dernière, où il était question de la divinité de Jésus-Christ, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été levé dans la gloire. On a parlé des fausses doctrines concernant Jésus-Christ. On a dit que c'est une marque des sectes et des fausses religions que d'affirmer que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il est simplement une création, une émanation de Dieu. On a insisté là-dessus et on aurait pu penser que ça aurait été l'exemple de doctrine de démon que l'apôtre utilise pour nous dire « Regardez attention à ceux qui abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Mais il parle de ceux qui prônent le célibat et de ceux qui disent qu'il ne faut pas manger certains aliments à certains moments ou de façon générale. C'est sans doute parce qu'en fait, ces prescriptions de ne pas se marier, de s'abstenir de certains aliments, ça montre quelque chose de très grave. Ça montre quelque chose qui est démoniaque. Alors aujourd'hui encore, même dans certaines religions chrétiennes, qui peuvent enseigner la vérité par certains aspects, est-ce qu'il y en a qui ont... Vous allez... C'est une confession, là, attention. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé le mariage princier d'Albert et Charlène? Ah, quelqu'un d'honnête là-bas. Personne d'autre? Voilà. Ah, mais on était plusieurs à regarder un petit peu. J'ai été émerveillé par l'archevêque et l'enseignement qu'il a donné sur le mariage. Il n'y avait rien à redire. Tout ce qu'il a dit, c'était biblique. Il a même terminé en disant « Faites ce que Marie disait aux serviteurs, faites tout ce que Jésus vous dira, vous dit. » Je dis « Alléluia !» Mais c'est la même religion qui a un peu de graines germées, qui dit qu'on est plus spirituel si on n'est pas marié. Paul disait qu'il souhaite que si on pouvait rester célibataire, ça facilitait beaucoup le travail du ministère. On était libre de suivre l'Esprit Saint beaucoup plus facilement que si on a une femme, des enfants dont on est responsable, et dont il faut s'occuper, bien entendu. Mais il ne disait pas qu'il ne fallait pas se marier. Les prêtres catholiques, ils doivent choisir entre le célibat et le service de Dieu. Le célibat va avec le service de Dieu. C'est la même religion qui faisait que pour moi, le vendredi, on mangeait du poisson à la maison. On ne mangeait pas de la viande, ça c'était un péché, mais on pouvait manger du poisson. D'où ça peut bien sortir ces imbécilités? Qu'on fasse encore le jeûne qui est prescrit. Par ailleurs, dans la parole de Dieu, il est dit que certaines situations... On ne peut avoir la victoire que par la prière et le jeûne. Le jeûne, c'est une façon de se consacrer davantage à la prière, de ne pas satisfaire les appétits de notre chair, de notre estomac, dans l'idée de se consacrer davantage à la prière et aux choses spirituelles. Donc là, S'abstenir de nourriture, c'est pas mauvais en soi, mais où est-ce qu'on a été trouvé que la viande c'était un péché et le poisson ça va? Quand on coupe un gros thon, il y a plein de sang aussi. On voit que ce sont des choses qui ont été rajoutées. Alors, en quoi est-ce que c'est grave ces choses? L'idée, c'est que si vous faites ces choses, si vous abstenez d'appétit naturel, la sexualité, le mariage, c'est pas une invention du diable, c'est Dieu qui l'a créé, c'est une bonne chose, c'est une belle chose. Dieu a vu qu'il n'était pas bon qu'Adam reste seul, et donc il lui a trouvé une compagne. Et c'est quelque chose de très beau, la sexualité est une chose merveilleuse dans le cadre du mariage. Satan, qui cherche à tromper, qui met toujours un peu de mensonge, dit qu'en fait la sexualité dans le mariage c'est embêtant, c'est ennuyeux, mais que la sexualité en dehors du mariage, alors là c'est formidable. C'est le mensonge, c'est l'hypocrisie des faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience qui font qu'ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Encore une fois, les choses qui sont interdites, souvent c'est des choses qui sont bonnes, que Dieu a créées si on les utilise dans la façon que Dieu veut que nous les recevions. C'est Dieu qui a fait que pour la vie, il faut le mariage, il faut la nourriture. Encore une fois, il aurait pu faire que la procréation dans l'espèce humaine se fasse par bouturage. Prenez un sécateur, vous coupez la dernière phalange du petit doigt, vous la mettez dans du terreau, vous arrosez bien, et au bout de quelques temps, il va y avoir un petit bonhomme qui va arriver. Rien ne l'empêchait de faire ça. Il a choisi une méthode beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche, qui est pour moi, je crois, l'image de la relation fusionnelle qu'il va avoir avec nous pour l'éternité, si nous lui appartenons. De la même façon, peut-être qu'il y en a déjà parmi vous qui commencez à entendre votre estomac. Il y en a qui ont déjà faim? Je ne vais pas demander qu'on lève la main, je vois déjà des gens qui acquiescent. Un bon steak frites ou une bonne salade aux graines germées, non, je plaisante. La nourriture, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Et comme toute chose, si on les utilise comme avec mesure, ce sont des bénédictions. Si votre besoin sexuel, votre désir sexuel, vous en faites une idole, vous allez être victime, vous allez courir l'adultère, vous allez attraper des maladies, vous allez être obsédé sexuel, vous n'allez pas être heureux. Si la nourriture, ça devient quelque chose qui dirige votre vie, vous allez devenir obèse. Encore que l'obésité, c'est pas seulement la cause d'un appétit, il y a d'autres causes médicales, mais encore une fois, ces choses que Dieu a données, a créées, il faut les prendre de quelle façon? Avec des actions de grâce, en remerciant Dieu pour ces choses qu'il nous donne. Remerciez Dieu pour votre femme, pour votre époux, pour votre épouse, pour votre époux. Remerciez Dieu pour le fait que vous avez le désir de, peut-être de trouver un époux, une épouse, que si vous restez fidèle à Dieu, il vous promet de vous donner les désirs de votre cœur et qu'il va vous bénir dans ce domaine. Des fois, ça peut prendre du temps. Regardez le prince, 53 ans. Je ne vous le souhaite pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mais Dieu est fidèle. Et si vous respectez sa parole, si vous trouvez la vérité dans sa parole, vous pouvez lui dire merci. Toutes choses bonnes sont créées. J'aime beaucoup le passage dans la lettre de Jacques, dans l'épître de Jacques. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toutes bonnes choses, toutes les choses qui vous font du bien, toutes les choses qui sont légitimes et qui ne vous donnent pas mauvaise conscience, si votre conscience est encore sensible, c'est Dieu qui vous les donne et vous pouvez le remercier. Quelle est la dernière fois que vous avez remercié Dieu pour votre époux ou pour votre épouse ? J'espère qu'il ne faut pas chercher très longtemps, ça ne fait pas si longtemps que ça. Quelle est la dernière fois que vous avez remercié Dieu pour sa nourriture ? Alors là, je veux vous mettre en garde aussi, parce qu'il y a l'excès inverse, c'est dans le fait de prier avant le repas, ça peut devenir une chose religieuse. Et j'aime bien mes enfants qui me disaient « Mais papa, où est-ce qu'il est écrit qu'il faut, prier avant le repas ?» Alors je leur disais, c'est vrai, on peut prier pendant le repas ou après le repas pour remercier Dieu, mais prier avant le repas, c'est aussi faire preuve de foi. C'est dire merci à Dieu pour le repas que maman a préparé à l'avance, sans attendre voir si elle a fait un bon travail ou pas. Il ne s'agit pas, lorsque vous priez pour remercier Dieu, de le faire pour montrer que vous êtes spirituel aussi. Et je dois dire que souvent je suis gêné lorsque je suis avec des non-chrétiens. Je me dis, si je prie, je vais les mettre mal à l'aise. Si je ne prie pas, je vais être mal à l'aise. Si je prie, c'est un petit témoignage. Donc ça, c'est quelque chose, vraiment, il faut se laisser guider. Mais n'en faisons pas un légalisme religieux. Ce qui compte, c'est de réaliser que c'est pas parce que vous avez plein d'argent, que vous avez gagné vous-même, que vous pouvez vous payer une bonne assiette de pâtes aux truffes. Je vise personne. C'est parce que Dieu vous permet d'avoir cette assiette. Si ça titille vos papilles gustatives, c'est parce que Dieu vous donne la santé. C'est toujours une des conséquences souvent des traitements de perdre le goût des choses. De réaliser quand tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui est bon dans la vie, si c'est vraiment bon, savoir que c'est Dieu qui vous le donne. D'avoir cette attitude de gratitude, de remerciement. Et ça, c'est ce que leur dit Paul. C'est pas grave, c'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on est plus spirituel, c'est pas parce qu'on ne mange pas certains aliments qu'on est plus spirituel. Non, toutes ces choses, il faut les recevoir avec remerciement. Et ce sont des discours inspirés par les démons, dans le sens où ça veut dire que on cherche des moyens humains pour être sauvés. On se dit, si je m'abstiens de nourriture, si je m'abstiens de sexualité, alors je gagne des bons points vis-à-vis de Dieu. C'est complètement sacrilège, c'est un sacrilège. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on fasse des efforts sur nous-mêmes, pour mériter son amour, pour mériter, c'est lui renvoyer sa grâce au nez. C'est lui dire, Tu as envoyé ta grâce, ton amour que je ne peux pas mériter, mais moi je vais quand même mériter ton amour. Et ça, c'est très très grave. Ça veut dire qu'en fait, Jésus-Christ est mort pour rien. On en parlait, Tonio faisait réfléchir les gens pendant la lecture des évangiles ces 4 dernières semaines. Et il disait que si on peut mériter le salut par nos propres moyens, c'est qu'on rejette le sacrifice de Dieu. On dit qu'en fait, Jésus n'avait pas besoin de mourir. Et c'est comme si on disait au Père, si tu m'avais demandé, je t'aurais expliqué que Jésus n'avait pas allé à la croix. Vous voyez l'outrecuidance pour ceux qui ne connaissent pas le français du Moyen-Âge où vous demanderez à Élodie. C'est le culot, c'est l'insolence, c'est cuire au-delà. Je ne sais pas si ça vient. Ça doit venir du latin cudere. Je vous laisserai voir avec Élodie. C'est absolument un sacrilège que de penser qu'on sait mieux que Dieu et on va rejeter les moyens, le moyen unique qui était possible, le moyen divin qui était possible d'être sauvé, le sacrifice de Jésus, Fils de Dieu, Dieu le Fils qui vient mourir pour mes péchés. Et ça, c'est une tendance aussi qui est attachée à notre vieille nature de pécheur, qui est très subtile, mais qui est vraiment quelque chose de pernicieux, de quelque chose qui se cache, et souvent, il faut demander l'aide de Dieu pour voir ces choses dans nos cœurs. C'est quelque chose qui a inspiré l'Église dès les premiers siècles. On a parlé de ces stylites qui se trouvent sur la place Masséna. Ces scribes qui sont perchés au sommet d'une tour et que rien ne peut distraire de leur étude des livres qu'ils ont en face d'eux. Et on a expliqué qu'il y avait des moines, des hommes qui voulaient être spirituels dès le 3e, le 4e siècle, qui ont été des stylites, qui sont montés au sommet de tours ou de poteaux de façon à montrer à tous combien ils étaient spirituels, de façon à se couper du monde. Et ça, c'est l'ascétisme qui n'est nullement prescrit par la parole de Dieu. Encore une fois, on peut s'abstenir de nourriture, de sexualité, dans le but de prier, dans le but de servir Dieu, mais pas pour mériter son approbation, son amour, sa grâce. Sa grâce, c'est justement quelque chose qu'on ne peut pas mériter. Et lorsqu'on lit les extrémités auxquelles certains moines en venaient, on est non seulement surpris, mais attristé. Il y en avait, par exemple, quand on fait des lectures sur ces sujets, qui passaient la nuit au sommet d'une falaise en équilibre, de façon à ne pas pouvoir dormir, parce que s'ils s'endormaient, ils allaient tomber dans le vide. Donc pour s'abstreindre à ne pas trouver le sommeil, pour se sacrifier, pour donner le sommeil, qui est une bonne chose, encore une fois, que Dieu nous donne, ils allaient au-delà de ce qui est intelligent. Et les gens disaient, « Waouh, tu as vu cet homme ?» Il y en avait qui ne se lavaient pas, qui ne se changeaient pas de vêtements, et ils étaient heureux lorsqu'on voyait des vers qui tombaient de leurs vêtements, de leurs cheveux. Quel sacrifice! Et ça, c'est toujours la tendance qui peut être beaucoup plus subtile parmi les chrétiens. Ah, tu viens pas à la prière du mardi matin ? On commence à 7h. La semaine dernière, on a commencé à 6h30. Tu étais où, toi ? Tu dormais ? Oh ! Ah, si seulement tout le monde était aussi courageux pour le Seigneur que je le suis, l'Église n'en serait pas là. C'est subtil, mais c'est un vrai danger. Et tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ces doctrines de démons qui montrent qu'on cherche des moyens humains pour être sauvés, Paul s'y oppose dans ses lettres, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 16 à 23, on va lire le verset 16. Ainsi donc, il vient d'expliquer que Jésus, en ressuscitant d'entre les morts, a effacé l'acte rédigé contre nous. La condamnation que nous avions à l'enfer, elle a été effacée. L'acte rédigé contre nous, dont les dispositions nous étaient contraires, il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, pas celles de Monaco, mais les principautés, c'est toutes les puissances démoniaques qui ont un pouvoir localisé sur la terre. Les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Par la croix et sa résurrection, Jésus a gagné sur le mal et sur le Satan et ses anges. Et il dit, verset 16, « Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête et de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. » Que personne sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Au lieu de s'attacher au chef, par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Toutes ces fausses prescriptions qui font que certains abandonnent la foi, ce sont des doctrines de démons qui font que les hommes, abandonnant leur conscience, s'enflent d'orgueil, l'orgueil. Ça, c'est vraiment le péché de Satan, le péché par lequel il nous attire aussi, ce péché d'orgueil. Il prend bien sûr donc l'exemple de ces mensonges qui étaient dans l'Église à l'époque. On sait qu'aujourd'hui dans l'Église il y a aussi plein d'autres mensonges. L'Église essaye de s'accommoder des doctrines scientifiques, soi-disant scientifiques, des doctrines enseignées dans l'éducation non chrétienne, et l'Église essaye de s'accommoder ou de mettre au diapason ces enseignements. Et ce même jusque dans l'Église évangélique. Il est clair, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, que le monde a été créé par Dieu. La création de Dieu, en des journées de 24 heures, est clairement enseignée. Si Dieu avait voulu de parler de journées de 1000 ans, ou de 150 000 ans, ou d'ère géologique, rien ne l'empêchait de le faire. Devant les théories scientifiques de l'évolution, entre guillemets scientifiques, parce que la théorie de l'évolution, c'est une théorie. Même si dans notre bon vieux pays de France, on nous l'enseigne comme une vérité scientifique, ça ne reste qu'une théorie. Et une théorie qui prend l'eau, une théorie qui a des tas de problèmes et qui est aussi difficile à croire sans une foi dans un monde païen, même plus difficile que de penser que Dieu a créé le monde et qu'il l'a créé en 7 jours. Alors dans l'église évangélique, il y a ceux qui vous disent il faut prendre les jours comme des aires géologiques. Dieu a créé le monde, mais en utilisant l'évolution. Donc au départ, il a fait quelque chose, et puis après il a mis en place des mécanismes. C'est vrai qu'il y a des mécanismes de continuité, de reproduction qui sont en place, mais si dans l'église évangélique, on vous fait croire à l'évolution, il y a un problème. Alors peut-être que pour vous, c'est dire, je croyais que Pierre était raisonnable, mais alors là, il croit à la création du monde en 7 jours. Alors là, c'est un peu fort de café, comme on dit. Je vous comprends parce que moi-même, au début, lorsque j'ai entendu parler de l'évolution comme d'une fable, moi qui avais été formé dans l'école de la République, laïque, scientifique, progressiste, je m'étais dit, ils sont bien gentils, je veux bien recevoir l'amour, la grâce de Dieu, mais là, mon brave pasteur, il est mal informé. Et puis si vous faites des recherches, si vous regardez un peu, vous creusez un peu la théorie de l'évolution, vous voyez qu'en fait, elle ne tient pas le coup, elle ne tient pas le choc. Aujourd'hui, si vous demandez ou si vous regardez une émission scientifique dans laquelle il y a des scientifiques qui vous expliquent comment le monde a été créé, vous voyez qu'il y a des tas de théories qui sont totalement farfelues. Alors on dit, oui, le monde, c'était comme un ballon. Comme un cactus. Alors attention, les cactus et les ballons, ça va mal ensemble. Hein. Ça fait c'est pas des big bang, mais ça fait du bang. Et puis non, parce qu'il y a certaines découvertes qui montrent que cette théorie, elle ne marche plus. Alors on en invente une nouvelle. Et puis le ballon, il a grandi comme ça, mais après il y a un autre ballon qui a grandi comme ça, et puis un ballon, et ça c'est des galaxies. Et c'est du n'importe quoi. Franchement, si vous écoutez ces théories et la multiplicité de ces théories pour accommoder la vérité scientifique, vous voyez que les grands pontes scientifiques, les maîtres au Collège de France, tout ça, les stars de la télé païenne, de la télé qui rejette Dieu, les deux closés et autres grands chercheurs, ils n'en savent rien du tout. Il est beaucoup plus facile de penser que la création telle qu'elle est décrite est la vérité que d'aller chercher leur théorie. La psychologie, ou j'ai prononcé le mot qu'il ne faut pas, la psychologie moderne. Les grandes victoires de la psychologie. Il y a des choses intéressantes dans la psychologie. Souvent, quand on est mal dans sa peau, plutôt que d'aller dans la Bible, on va voir chez Freud. Et la plupart des grands psychologues, c'était des gens qui avaient des problèmes psychologiques. C'est pour ça qu'ils ont fait de la psychologie. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui ont fait des études en psychologie, qui ont beaucoup investi de temps, qui respectent la psychologie. Je respecte les psychologues, je respecte la recherche, mais méfiez-vous de chrétiens psychologues. Parce que s'il y a de la psychologie, c'est plus du christianisme. Comment ont fait les chrétiens, les millions de chrétiens, avant que Freud n'arrive sur la place de Vienne? Il est dit dans la Bible qu'en Christ, il y a tout ce qui est nécessaire à la vie et à la doctrine. Qu'on utilise la psychologie pour, dans les méthodes qu'elle donne, d'écoute, de faire parler les gens, c'est une chose, mais de croire que sans la psychologie on ne peut pas vivre, c'est un autre mensonge de la société moderne qui est rentrée dans l'Église. 2 Pierre 1, 3, sa divine puissance nous a donné, c'est fait, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tout nous a été donné. Je peux avoir totalement confiance si vous me dites que vous lisez la Bible et rien d'autre. Je suis inquiet si vous me dites que vous lisez la Bible et autre chose. La solution à ces faux enseignements, elle est donnée au verset 5. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Tout est sanctifié, tout est honoré, reçu comme venant de Dieu, mis à part pour un bon usage par la parole de Dieu et par la prière. Si vous êtes inquiet, vous dites, mais il y a plein de faux enseignements qui traînent à droite, à gauche, comment savoir? Lisez la parole. C'était formidable de voir l'engouement du groupe qui est venu les mardis soirs au mois de juin, de voir qu'en fait, c'est passionnant de lire la parole avec un esprit ouvert, prêt à poser des questions au texte ou poser des questions au pasteur ou à se poser des questions entre nous, mais de voir qu'il y a des choses qui sont dites, de savoir que toutes ces choses sont la vérité. Ce qui compte, c'est de lire régulièrement. Alors je sais, on se dit, oh, ça fait plusieurs années que j'ai essayé de lire la Bible en un an, ça marche bien le 1er janvier, le 2 janvier, et puis à la fin du mois, j'ai déjà pris tellement de retard que je laisse tomber. Ou alors je vais attendre le mois de janvier prochain, le 1er janvier, cette fois-ci, là, je vais y arriver. Vous pouvez commencer tout de suite, vous pouvez lire en direct, vous pouvez trouver des programmes. Alors, il y a même une Bible qui est éditée, qui est la Bible en un an, et qui vous donne un bout de lecture dans plusieurs passages pour chaque jour. Et en un an, si vous suivez ce programme, vous aurez lu toute la Bible. Formidable. Sachant qu'on vit dans une société où on n'a plus beaucoup de temps, c'est sûr qu'entre Internet, Facebook, la télé, les films, la plage, les mariages et tout ça, on n'a plus beaucoup de temps. Alors il y a un livre qui a été publié qui dit comment lire la Bible en 2 ans. Ah ! Et là, je suis tombé l'autre jour à la librairie biblique. Ça, c'est un calendrier de lecture biblique pour 2011 qui vient de la Bible en 6 ans. Ah, là on peut voir venir. Peut-être qu'il y a des jours où on peut prendre un peu d'avance. Je plaisante, mais en fait c'est un sujet très sérieux. Et ne croyez pas que votre pasteur est au-delà d'avoir de l'aide comme ce genre de programme. Ce qui compte, ce n'est pas combien vous lisez chaque jour, c'est le fait de lire chaque jour. Ça peut être les paroles du calendrier, avec un petit verset, c'est déjà mieux que rien. Ce qui compte, c'est que chaque jour, vous vous tourniez vers le Seigneur, que vous lui remettiez votre journée, parce que seul, on n'y arrive pas. On a trop d'opposition, trop de problèmes, trop de choses qui accaparent nos esprits. Mais prenez le temps, chaque jour, il y a un pasteur, son enseignement, c'est « lisez la Bible et priez chaque jour ». Des fois, on veut faire de grandes choses pour le Seigneur, on veut partir, on veut commencer des églises, etc. Le pasteur dit, c'est John Corson, lisez la parole chaque jour et priez. Commencez. Si vous y pensez, généralement, vous allez passer plus qu'une minute à lire le texte. Vous allez être pris, malgré vous. Mais si vous ne vous donnez pas cette opportunité, alors vous allez être des victimes désignées pour ceux qui viennent raconter n'importe quoi. Et dans l'Église moderne, on voit des tas de chrétiens qui sont trompés et qui après abandonnent la foi. C'est ça qui est terrible. Je parle souvent de la doctrine de la prospérité qui dit que vous ne devez pas être malade, que vous ne devez pas être dans le besoin financier, que si c'est le cas, il y a du péché dans votre vie. Dieu a promis la prospérité et la santé à tout le monde. C'est un mensonge. Dieu est souverain, il nous fait passer par des épreuves, on ne les comprend pas toujours, mais si vous vous adonnez à cette doctrine, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et nous l'avons vu, personnellement, les gens rejettent. Il rejette le bébé et l'eau du bain. La doctrine des églises sensibles à ceux qui sont en recherche. Ceux qui sont prêts à ne plus enseigner la Bible, à ne plus parler de péché parce que ça éloigne les gens, mais qui font des petites scénettes du théâtre moral. C'est une résurgence de ce qu'on a appelé l'évangile social du début du siècle. Ces gens pensaient que la Bible a les solutions aux maux de notre société. Mais le problème, c'est que les gens sont rebutés par l'aspect surnaturel, par l'aspect des miracles qu'on trouve dans la Bible, par la notion de péché personnel. Donc on va gommer tout ça et on va s'attacher à servir la société en premier lieu. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça doit être une conséquence d'une transformation par la rencontre de chaque personne avec Jésus-Christ. Et donc, on pourrait multiplier les exemples, mais ça nous montre combien il est important de s'attacher à la saine doctrine, à la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, à la parole de Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va prier. Seigneur, tu vois combien nous sommes prêts à être des victimes des faux enseignements, Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous ne connaissons pas la vérité. Ou nous sommes prêts à la survoler. Et c'est le vieux mensonge de Satan à Ève qui lui disait « Mais non, Dieu veut vous empêcher d'être comme lui, d'être comme des dieux. » Tu vois, toutes ces choses que nous avons évoquées, Seigneur, c'est le mensonge du diable, lui qui est le père du mensonge et qui ne cherche que la mort de ceux qui le suivent. On te demande de nous fortifier, Seigneur, de nous rendre des lecteurs assidus et réguliers de ta parole, des gens qui prient personnellement, en tête à tête avec toi et aussi ensemble. Seigneur, nous te remettons les dangers qui nous guettent, Seigneur, sachant que toi, tu es bien plus puissant, toi qui es en nous, que celui qui est dans le monde, Seigneur. Fortifie ton Église, fortifie ton peuple. Nous te le demandons par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.